Donc le César de la meilleure actrice est attribué à Dominique Blanc.
Et le Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre public est attribué à Dominique Blanc.
Oh, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en tête l'émission.
Ne fais pas de bruit, t'as pas le d'or.
On est all to you.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
C'est lequel?
Una all to you. Dark, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Au cinéma, on vous met dans une tour d'ivoire. Le théâtre, lui, remet les idées en place. Il ne fait pas appel aux mêmes nerfs et on y est plus vulnérable. Parole de grande actrice de théâtre et de cinéma. Oui, une grande actrice est pour la première fois sur notre affiche. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Il apparaît, il ouvre même le spectacle, le rabbin Isidore Remelwitz. Et derrière cette voix et ce maquillage, ce costume, une femme. Bonjour Dominique Blanc.
Bonjour.
Un rabbin, une mère mormone, un chirurgien, un bolchevique, Ethel Rosenberg, un ange. Vous êtes tous là à la fois dans Angels in America de Tony Kushner, mis en scène par Arnaud Desplechin à la Comédie Française. Un homme de cinéma au théâtre et qui vous offre une multitude de personnages et cette exceptionnelle capacité, la vôtre, de faire vivre et vibrer chacun d'eux. Théâtre et cinéma, c'est notre propos ce matin. Vous connaissez la musique Dominique Blanc, 3 Molières, 4 César, et vous nous raconterez de l'intérieur votre expérience de la scène et des plateaux. Enfin, les sorties de ce mercredi, pour les petits chats par-ci, chats par-là, et les bien plus grands, La fille au bracelet, Un divan à Tunis, 2, Mickey and the Beer, Tu mourras à 20 ans, et la ressortie de Parasite de Bong Joon-ho après ses 4 Oscars dimanche. Et maintenant, salle Richelieu, le rideau se lève sur lui.
Vous, les descendants de cet immigré, vous et vos enfants avec leur nom de Goy, vous ne vivez pas en Amérique. L'Amérique, l'Amérique, ça n'existe pas. Vous êtes fait de la terre d'un Chattelmidvac. Vous respirez l'air des steppes. Parce qu'elle a transporté le vieux monde avec elle, traversant l'océan, et qu'elle l'a déposé à Grand Concourse Avenue, ou à Flatbush.
Lui, c'est vous, Dominique Blanc, ce vieux rabbin Remelwitz qui ouvrait Angels in America aux Français, cette œuvre monstre signée l'Américain Tony Kushner, mis en scène et revisité par Arnaud Desplechin. 3 heures contre 6 dans la version originale, l'Amérique des années 80, de Reagan à la perestroïka et au milieu des tragédies individuelles de vie marquées par l'homosexualité et le sida. C'est un projet extravagant. 44 changements de décor, 8 comédiens, dont vous pour 23 personnages. Et pardon pour cette immense première question, mais quel est l'apport d'un homme de cinéma, Desplechin, à cette pièce de théâtre-là?
Ah, oui, question monstre. Ah, l'apport.
Le regard d'un homme de cinéma.
Oui, alors, vous savez, ça va commencer par, comment dire, tout de suite une séance de travail, d'abord la rencontre dont moi je rêvais depuis très longtemps. Rencontre dont je rêvais, j'ose le dire aujourd'hui, à ce micro depuis La Sentinelle.
Ah oui.
Oui.
Vous rêviez de lui?
De son cinéma. Ah, vous m'avez eu là.
Et pourquoi vous rêviez de son cinéma?
Parce que j'en aimais la délicatesse, la façon dont les comédiens étaient libres. Voilà. Moi, c'est une chose que je ressens assez quand je vais au cinéma. J'aime quand je sens les comédiens ou les comédiennes radieux, quand je sens qu'ils sont capables de tout, qu'ils sont dans une espèce de liberté incroyable, alors que le cinéma, justement, avec les appareils et tout le reste, ce ne sont que des contraintes techniques. Et je pense qu'il a évidemment un regard de cinéaste, mais il a un regard d'humain aussi, sur les personnes qu'il filme. Et je pense qu'il les filme avec beaucoup de pudeur, et il les filme aussi avec beaucoup d'intériorité. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille énormément, et qui travaille aussi beaucoup à partir de cette manière matière humaine absolument incroyable qu'est un comédien ou une comédienne.
Vous avez retrouvé cette liberté dans les répétitions avec lui?
Alors, ce que je vais vous raconter, c'est très étonnant, c'est que la première répétition, donc on se connaissait pas, donc on a bu un café, enfin, vous voyez, on a fait le chemin classique. Mais à la première répétition, une fois qu'il y a eu des lectures à la table tous ensemble, bon, ce qui est un peu classique, je sais pas, ça dépend des gens. Après, ce qui m'a frappé, c'est qu'il travaille à la table comme ça. Et puis moi, j'étais à côté de lui, les autres aussi, mais parfois, il y avait peu de monde. Et en fait, il n'y a pas de regard. C'est-à-dire que tout est sur le texte. Lui, il a les yeux baissés sur le texte. Et en fait, il ne fait qu'écouter. Ce qui est assez génial. Et il va écouter ce que vous allez proposer. Et vous, bah vous c'est une espèce de grand bazar à l'intérieur, parce que si je parle du rabbin, on avait tous les deux envie que ça ne soit absolument jamais caricatural. Donc de Funès Popek à la poubelle, on avait envie d'une approche extrêmement fine, délicate. Donc déjà, il m'a offert les DVD d'un cinéaste que j'aime aussi énormément, qui est Emmanuel Finkiel. Et puis il m'a fait rencontrer une personne qui m'a aidé pour prononcer le yiddish, qui a fait le discours du rabbin avec un très très léger accent, et on s'en est approché comme ça, vous voyez, tous les deux.
Mais un travail énorme pour un morceau pas très long dans la pièce, finalement.
Oui, mais ce qui me plaisait, c'est qu'il avait aussi cette même envie de mais parce que je pense qu'il travaille comme ça tout le temps, hein, cette envie de perfection et de vérité. Et c'est vrai que ce qui me touchait, moi, c'était ce texte. Alors j'avais vu la mini-série, évidemment, avec Meryl Streep et Al Pacino. Mais je m'empresse de dire que Meryl Streep ne fait pas tous les rôles.
Non.
Fait pas les 6 rôles. Non, mais en rabbin, elle est extraordinaire. Évidemment. Et le texte est magnifique parce que c'est une espèce de chant d'amour comme ça à la culture yiddish, et on peut pas lire ce texte sans avoir envie de pleurer.
Mais comment on passe d'un personnage à l'autre? Parce que vous parlez de ce rabbin, ensuite une mère mormone, ensuite je le disais un chirurgien, ensuite Ethel Rosenberg. À chaque fois il faut se recontextualiser.
Voilà, ça j'avais jamais fait, et c'était très intéressant pour moi parce que c'était vraiment à Paris, vraiment. Je pense que Desplechin ne l'avait jamais fait non plus. Par moments, je me suis dit, il est complètement inconscient parce que je n'y parviendrai pas, il ne s'en rend pas compte. Et puis, j'ai préféré ne jamais lui avouer tout mon trac et toutes mes angoisses parce que je pense que ça l'aurait beaucoup encombré. Et puis, il avait probablement aussi les siennes. Donc, le médecin, bon, bah, j'ai rencontré évidemment des médecins aussi. Moi, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans ce métier, si vous voulez, finalement, entre cinéma et théâtre, c'est la recherche d'humain. Voilà, c'est la recherche de l'humain. De l'humain minuscule, pas de l'humain gigantesque. De l'humain perdu dans ses désarrois, dans ses vertiges, dans ses pulsions, dans ses douleurs, beaucoup. La souffrance, la douleur, sans parler du race, elle m'a toujours beaucoup attirée et beaucoup impressionnée. Et j'ai toujours beaucoup aimé la jouer.
Desplechin, dans son langage, sa dynamique, sa liberté, sa façon de malaxer, justement, comme vous le disiez, le tissu humain, était un appelé donc idéal pour cette pièce. Nous sommes allés voir l'une de ses actrices de cinéma, Emmanuelle De Vos, pour évoquer son travail avec lui.
Et elle, c'était ta femme?
Madeleine.
Quel prénom bizarre. Cette photographie, elle a été prise où?
À Milan. Je l'ai rencontrée dans un colloque. Nous nous sommes épousés, ça a duré un mois. Et elle a eu cet accident de voiture.
Elle était jolie.
Conduisait mal.
Ça ne doit pas vous étonner que Desplechin fasse du théâtre, en fait. C'est pas la première fois, mais avec Dominique Blanc et Angel Cinamérica. Est-ce que c'est pas étonnant par rapport au travail que vous avez effectué avec lui, sur les films que vous avez fait avec lui?
Non, c'est pas étonnant du tout. D'abord, il a toujours adoré. Non, pas toujours, mais en tout cas, il a découvert le théâtre, je crois, avec Chéreau. Il a une grande passion pour Patrice Chéreau. Et puis, quand même, c'est un gars que j'ai vu sur son premier, sur La vie des morts, donc nous déclamer la tirade de Richard III de Shakespeare. Donc, il a un côté théâtral en tant que metteur en scène, même sur un plateau de cinéma. Il met de l'ambiance, quoi. Vous voyez, il bouge, il est pas dans un petit coin. Tout. Après, nous, il nous fait jouer, pas du tout de manière théâtrale, mais quoique, on voit un conte de Noël, Mathieu, il a quand même des... On a tous des sorties un peu outrancières. Donc non, ça m'étonne pas du tout qu'il soit passé au théâtre. Puis c'est aussi l'exemple de Bergman qui avait, je pense qu'il a, il a sûrement ça un petit peu en tête.
Les répétitions avec lui ressembleraient à des répétitions de théâtre au cinéma ? Vous répétiez autour de la, sur le texte autour de la table ?
Alors non, moi en tout cas, il me fait jamais répéter. Il veut pas que je répète.
Pourquoi ?
Il me l'a dit, mais j'ai oublié. Je sais plus pourquoi. Je sais que moi, je ne répète pas. Voilà, c'est comme ça. Je...
Traitement de faveur.
Bah non, ou pas. Hein. Non, mais peut-être pour pas user. Mais je ne sais pas. J'ai oublié. Je pense qu'il me l'a dit, mais j'ai complètement oublié. Je sais plus pourquoi. Mais Arnaud, il fait tout. Hein. Arnaud, il fait tout. Le matin, il arrive très très tôt avant tout le monde avec son assistante et la script ou quelqu'un d'autre. Et à 3, il répète toutes les scènes qu'il va faire dans la journée. Il répète les mouvements. Et après, il nous les propose. Si ça nous va, ben, ça roule. En général, ça va très bien. Et puis, si on veut rajouter quelque chose ou faire différemment, il s'adapte. Mais il est suffisamment acteur pour savoir comment il veut que sa scène soit jouée. En tout cas, dans les corps.
Dominique Blanc, elle a quelqu'un à côté d'elle, c'est Chéreau, au-dessus d'elle. Vous, c'est Desplechin. C'est très important dans un parcours, ça, d'avoir des metteurs en scène pareils.
Ça construit. Enfin, vous construisez avec des personnes quand même au-dessus du lot. Après, chacun pense qu'il en veut, hein, de Chéreau, des Pluchins. Mais c'est surtout, enfin, moi, ce que je vois en Arnaud, c'est lui dit, on a grandi ensemble. Alors, il en savait quand même un peu plus que moi quand on s'est rencontrés. Mais on a eu le chemin que j'adore, c'est-à-dire d'écouter bêtement tout ce qu'il dit, et puis tout d'un coup un jour de dire, ah ben non, ben moi j'aime pas Rivette. Ah bon, t'aimes pas Rivette ? Bah non, moi j'aime pas Rivette. Et puis un jour, il me dit, oui, en fait, j'ai réfléchi à ce que t'as dit. Bah, c'est pas faux. Et puis après, lui, il aime pas Stéphane Fierce. Alors je dis, mais pourquoi t'aimes pas ? Bah si, regarde, c'est super ce film, parce qu'il y a tel plan. Enfin voilà, puis il y a un dialogue qui s'est construit au fil des années. Donc on a un échange assez rare, mais on continue à avoir un échange que je trouve extrêmement riche. Et puis c'est vrai que c'est... Avant, moi, maintenant, mais quand je m'ennuyais un peu sur un plateau, je voyais que la personne n'était pas très, voilà, pas très habitée par son projet. Bah, je me disais, je le fais plus maintenant. Mais je disais, bah, tiens, qu'est-ce que Arnaud aurait fait ? Qu'est-ce qu'il m'aurait dit ? Donc c'est bien, c'est comme une sorte comme ça, ouais, de...
Une ombre tutélaire aussi un peu, non ?
Il aime pas du tout dire qu'il est une ombre tutélaire, mais on est en compagnonnage, je sais pas comment appeler ça, ouais.
C'est quoi le plus important que vous ayez appris avec lui, avec Desplechin, qui vous a servi pour tout le temps après ?
Que quand une scène ne fonctionne pas, c'est pas la faute de l'acteur, c'est la faute de là où est la caméra. Alors peut-être c'est faux, mais je pense que c'est vrai. Moi, il m'est arrivé de demander qu'on filme autrement une scène, parce que je me sentais pas bien devant cette... Comme quelquefois, je peux pas me sentir bien dans un décor ou dans des lumières. Mais là, ce que je dis, je l'ai lu aussi, Stanley Donen le dit, qui d'autre encore James Ivory. Et Emma Thompson racontait une histoire comme ça, que, ouais, il avait déplacé un vase en disant « mais ça bloque la scène ». Ça avait mieux fonctionné après. Voilà, il faut construire l'écran pour l'acteur... Après, l'acteur, il s'occupe de ses sentiments, de comment dire le texte, enfin, d'apprendre le texte. Mais il faut le mettre en condition. Et ça, Arnaud le fait incroyablement bien. Vraiment.
Dominique Blanc, suffisamment acteur, dit Emmanuel De Vos, pour savoir comment la scène sera jouée. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ah, complètement. Sauf que nous, au théâtre, quand on a répété, il est couché par terre, Arnaud.
Non.
Oui, il est couché par terre comme un enfant qui regarde... comme un enfant au théâtre, en fait. Et alors, nous, moi, j'étais prévenue, mais ça fait quand même un peu bizarre. Alors, je me suis dit, bon, bah, il doit être à l'aise comme ça, sûrement. Et un peu sur le côté aussi, oui, en salle de répétition. Et je me suis dit, bon, bah, puisqu'il est comme ça, allons-y. En fait, c'est très agréable. Et puis, il se lève régulièrement, hein, il n'est pas, comment dire, Évidemment, il s'endort pas, mais il est très réactif. Donc, dès qu'il y a un truc qui lui plaît, hop, il bondit et tout ça. Et puis après, on arrive dans la salle Richelieu. Et dans la salle Richelieu, il s'est toujours mis au même endroit. C'est-à-dire pas à jardin, mais plutôt à cour. Et plutôt dans les premiers rangs et plutôt le même fauteuil toujours. Voilà. Et je dirais, c'est une présence extrêmement pointue. C'est-à-dire que, évidemment, rien ne lui échappe, mais c'est toujours d'une extrême précision et pour tout le monde, c'est-à-dire pour les 8 comédiens. Et ça, c'est extrêmement agréable, vraiment.
Quand Emmanuelle Devos dit, à propos de Desplechin, quand elle tourne les films après, elle se dit qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il aurait dit, je suppose que c'est quelque chose que vous vous êtes dit après Chéreau, ça, non?
Oui, mais moi, je me le dis encore, franchement.
Oui.
Oui, parce que je me le dis beaucoup au théâtre. Et je me le dis beaucoup au cinéma, oui, parce que le mot compagnon, moi, c'est un mot que j'aime bien, partager le pain avec, parce que ça correspond à une vraie intimité, voilà. Et c'est une intimité de personne, et c'est une intimité de comédien et de metteur en scène aussi. C'est-à-dire qu'avec Patrice, c'est vrai qu'on travaillait ensemble, on se voyait un peu en dehors, mais pas tant que ça, finalement. Oui. Et je crois que par rapport à ça, il y avait aussi beaucoup de respect et de distance. Et moi, j'aimais bien aussi aller travailler avec beaucoup d'autres gens.
On va l'entendre, Patrice Chéreau, parler des acteurs et puis en répétition avec vous pour Phèdre.
Pourquoi vous mettez si près des acteurs comme ça, Patrice Chéreau?
Parce que je crois que, d'abord, il y a un moment où, en plus, où je m'en éloigne, mais parce que je crois qu'il y a un moment où c'est un rapport entre l'acteur et le metteur en scène qui est un rapport à deux, qui est un rapport intime, et il arrive souvent que je me mette près des acteurs, effectivement, mais parce que je n'ai pas envie que les autres entendent ce qu'on se dit ou ce que je dis. Et ça, c'est un, il y a un moment où je m'éloigne beaucoup, mais je crois très fort, enfin je le fais d'instinct, encore une fois, je n'ai pas de théorie sur comment travailler avec les comédiens. J'essaye principalement d'être avec eux, si vous voulez. J'essaye d'être avec eux, j'essaye de les aider, parce que c'est vrai que ce que je leur demande est difficile, quelquefois. Peut-être parce que je réclame d'eux, au bout du compte, par tous les moyens, par tout ce que je demande, finalement, ce que je réclame d'eux, c'est une grande authenticité. C'est la plus grande authenticité possible. Et donc, dans ces cas-là, il faut effectivement les aider et être avec eux.
Mais ça veut dire que vous voudriez être à leur place, éventuellement?
Ah, pas du tout.
Vous ne voudriez pas être acteur?
Pas du tout. Je l'ai été, et je ne me considère pas comme un acteur intéressant. Et en plus, la dernière fois je l'ai été, les deux fois je l'ai été dans une mise en scène que j'avais faite, et donc ça m'a privé finalement du plaisir de voir le spectacle se faire.
Le dégagement d'Éric sur la main est un tout petit peu petit. Le mouvement, il est minuscule.
Oui.
Là, un tout petit peu plus grand, hein.
Mais est-ce que moi je touche plus la main?
Ah ben je ne sais pas, j'étais de l'autre côté,
ah,
donc je n'ai pas vu.
Parce que j'effleure de plus en plus, je touche de moins en moins.
Ben tu peux toucher un peu.
Ouais, d'accord.
Par contre, ce qui est bien, pour les gens de l'autre côté, comme j'étais l'autre jour,
oui,
c'est parce que ta main est restée comme ça qu'on a compris ce que tu avais fait.
Ah.
Tu vois, puisque je ne le vois pas le geste, il est pour ceux d'ici.
Oui, d'accord. Parce que je la retire tout de suite.
Non, on ne la retire pas.
Ah, je la retire.
Non. Et tu disais mais non, c'est ça?
Oui.
Oui, non, on ne la retire pas.
D'accord, d'accord.
La retire pas, c'est-à-dire que tu es là, tu dis, ben oui, j'ai fait ce geste.
Oui.
Tiens,
d'accord.
Ça m'est venu.
Hein? Oui, oui, oui. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur, du fil fatal, eût armé votre main. Mais non.
Vous dites, Dominique Blanc, le regard de Chéreau m'a libéré.
Ah oui, ça c'est sûr.
De quoi?
De quoi?
Oh là là.
D'abord, c'est le premier qui vous a engagé.
Oui, tout à fait. En fait, il y a eu plein d'essais avant, oui, on va dire, hein, plein de tentatives. Mais j'ai eu la chance que ce soit le premier sur Peer Gynt.
Oui.
Libéré intérieurement, c'est-à-dire que je crois que il m'a offert une liberté.
Il vous a déclaré actrice, presque, non?
Oui, c'est-à-dire qu'avec lui sur un plateau et dès Peer Gynt, j'ai eu le sentiment que je pouvais tout faire. Voilà. Et un plateau, quand vous êtes au TNP, à Villeurbanne, c'est très très grand, c'est très très vaste. Et je me suis dit, mais en fait, tous mes désirs, toutes mes envies, tout est possible. Et la chose que j'avais à faire, par exemple, dans Peer Gynt, était pas évidente, parce que c'était trois femmes un peu animaux qui rencontrent Peer Gynt, dont une va essayer va vouloir faire l'amour avec lui. Et bon, moi j'étais très jeune, je connaissais personne, de la distribution non plus d'ailleurs, et je crois que portée par la voix de Patrice, tout d'un coup, je me suis lancée, quoi.
Est-ce qu'on ose plus au théâtre qu'au cinéma?
Alors ça dépend vraiment.
Il y a la peur de l'image, vous voyez, on peut plus exagérer au théâtre, on peut plus...
Moi, la peur de l'image, je l'ai jamais eue. Je pense qu'en fait, ça dépend de deux choses pour moi. Du metteur en scène, évidemment, et puis ça dépend du chef opérateur. Aussi, énormément. C'est-à-dire, je parle pour le cinéma.
Oui.
Est-ce que lui va avoir un regard aussi libre et aussi généreux? Parce que pour moi, ça compte aussi. Est-ce qu'il y aura ce même potentiel de confiance? Et s'il y a ça, alors oui, c'est vrai que j'ai le sentiment, je dis pas que j'y arrive, parce que bon, on n'est pas non plus... on a des limites, évidemment, mais en tout cas, dans mon imaginaire, j'ai le sentiment que je peux tout faire.
Ça veut dire que vous dialoguez avec le chef opérateur, en plus d'un dialogue avec le cinéaste?
Oui.
Direct, d'actrice à chef-op?
Oui, alors il dira, enfin, il aura envie ou il aura pas envie, et puis le metteur en scène en sera jaloux ou pas jaloux. Mais c'est une petite intimité de rien du tout. Mais si vous voulez, je pense à Renato Berta sur Milou en mai, je pense à Philippe Rousselot sur La Reine Margot. C'est important pour moi d'avoir aussi cette générosité-là et ce même potentiel de confiance. Mais si le metteur en scène ou la metteuse en scène a bien fait les choses, tout est là, hein. Il y a pas besoin de...
Mais sur la jouissance d'actrice, quand on sort d'une pièce, je suppose qu'il y a une espèce de... Enfin, il y a quelque chose qui, du fait de la performance, qu'il n'y a pas sur un plateau de cinéma.
Oui, mais en même temps, quand vous sortez de scène, vous vous sentez extrêmement seul. Terriblement seul. Et le bonheur, là, sur Angels in America, c'est que Arnaud Desplechin est là tout le temps. Bon, il n'était pas là samedi dernier, mais on était perdus. On était comme des orphelins. On disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est bizarre, c'est pas normal.
Il y a quand même les spectateurs. Les applaudissements, ça change du cinéma.
Bien évidemment, mais si vous voulez, moi, je sais qu'après la représentation, alors évidemment, on peut aller boire des coups, puis ça peut durer toute la nuit, mais... parfois. Mais moi, j'ai quand même un grand sentiment de solitude en sortant. Je suis contente, évidemment, avec les applaudissements. Et puis sur Angel, si vous voulez... Bon, il se trouve que samedi, bon, alors Arnaud était pas là, alors après il a dit, mais c'est parce que j'étais pas là que ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai qu'on a eu samedi après-midi une salle, alors évidemment toutes les salles sont très différentes.
Bien sûr.
Mais samedi, il y avait énormément de jeunesse. Or, le samedi à 14h et le dimanche à 14h à la Comédie Française, il y a beaucoup d'anciens qui viennent avec les petits-enfants. Bon, j'aime aussi beaucoup les anciens, mais je veux dire... La jeunesse, elle est touchée par cette pièce, parce que le sida, ils savent plus ce que c'est. Et il n'y a pas longtemps, c'était la pièce, c'est 86, c'est la fin des années 80. Moi, j'ai des enfants de 20, 25 ans. On se dit, ils sont au courant de tout. Non, pas forcément. D'abord, ils pensent que le sida, c'est fini. Ils pensent que le sida, ça se guérit. Ils pensent plein de choses. Ils se protègent plus du tout. Il y a un grand retour des MST. Les médecins m'ont dit, il y a un grand retour du sida, il y a un grand retour de la syphilis. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire. Vous voyez? Et samedi, pardon, je suis un peu bavarde. Mais samedi, la jeunesse a été prise. Je ne sais pas comment vous dire. Ils riaient, je pense qu'ils pleuraient aussi. Il y avait un truc comme ça qui fait qu'on est... Nous, on est en apnée, quoi.
Sur la différence entre théâtre et cinéma, Emmanuelle Devos nous a confié qu'elle avait mis du temps, elle a porté sa voix au théâtre, se faire entendre sans déclamer, et que même au début, sur un plateau de cinéma, on disait « parle moins fort », du coup. Il y a une voix cinéma et une voix théâtre, Dominique Blanc?
Oh bah oui. Oui, parce que le micro au cinéma, il va vous aimer, il va vous cueillir, quoi que vous fassiez. Il va enregistrer vos larmes, il va enregistrer votre souffle, même si c'est le dernier. Il va enregistrer plein de choses, bien sûr, oui.
Mais au théâtre, le micro, c'est le metteur en scène. Moi, j'ai l'impression qu'on joue à Chéreau.
Alors là, je vais vous raconter un secret que vous avez que vous ne savez sûrement pas. C'est que sur Angels in America, tout le monde a des micros, sauf moi.
Mais non.
Mais si.
Mais non.
Et je n'ai jamais osé demander, parce que je suis très timide et très sauvage, et que je crois qu'Arnaud Desplechin l'est un peu aussi. Je n'ai jamais osé demander, alors là maintenant je le fais en direct, à Arnaud Desplechin, mais pourquoi moi j'ai pas de micro? Je n'ai jamais su. Alors au début, j'ai été très malheureuse, j'ai fait une grosse parano. Je me suis dit, oui, aïe, aïe, c'est parce que je suis punie, sûrement. Et puis après, je me suis dit, non. Puis
meilleur,
en fait, je vais vous avouer une chose. Oui. Le micro au théâtre, je vous l'avoue, je déteste ça. Non, je n'aime pas ça. Parce que je pense qu'au théâtre, on peut... Enfin, j'ai eu la chance de... Et puis, je l'ai choisi. De jouer toujours au théâtre public et subventionné. Or, ce sont des scènes immenses. Ouais. Et je pense qu'au théâtre, il y a un moment, il faut se remplir et il faut y aller. Ouais. Et quand vous jouez devant 1000 personnes, c'est aussi une très grande jouissance.
Le cinéma vous offrirait pas tous ces rôles au même moment, pendant une heure et demie, comme un plan séquence de film. C'est pour ça que vous êtes au théâtre plus?
Oui, on va être très franc aussi. Je pense que les producteurs qui miseraient sur mon nom pour un premier rôle au cinéma ne sont pas légion. Est-ce qu'il en existe? Je n'en suis pas sûre.
On va écouter un extrait justement d'un film que vous aimez beaucoup.
On n'ira rien.
C'est l'autre.
Ah bah oui.
On devrait arrêter de se voir, non? Je pense qu'on devrait arrêter complètement.
Pourquoi?
Parce que je te prends ton temps. Faut que tu sois disponible si tu veux rencontrer quelqu'un.
Mais je veux pas rencontrer quelqu'un.
Mais si, bien sûr que si. Bah si, tu vas rencontrer quelqu'un. Faut bien.
De toute façon, vu mon genre de femme...
C'est quoi ton genre de femme?
Tu sais très bien.
Une femme comme moi. Mais c'est quel genre, ça? Ça donne quoi? Une femme jeune? Une femme vieille, une femme belle, une femme laide, une femme avec des gros yeux.
Tu vois parfaitement quel genre j'ai dit.
Non, je vois pas. Mais tu sais, je suis pas un genre compliqué à trouver, hein. Je suis une femme vraiment tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis partie, Alex. C'est vraiment fini. C'est mieux. Je reviendrai pas. Je voudrais pas que tu sois en train d'attendre pour rien.
Une forme d'autoportrait au cinéma, Dominique Blanc, ça, ce dialogue.
Complètement, complètement. Et je dois citer, après ce que j'ai dit, Patrick Sobelman. C'est important.
Producteur.
Oui. Producteur. Ouais. Producteur de l'autre et producteur de quelque chose que j'aime énormément aussi, qui est la trilogie de Luca Bellevaux.
Oui.
Un couple cavale après la vie.
Un couple épatant.
Oh là là, ouais. C'était formidable ça aussi comme aventure.
Et le fait que ça reste comme ça, vous êtes pour les captations au théâtre, pour que ça soit filmé?
Il faut que ça soit très très bien fait. Par exemple, Phèdre, pardon, j'y reviens, c'était 4 caméras de chaque côté pendant 4 jours. Vous voyez, là c'est du bon travail.
Et le dispositif scénique s'y prêtait, parce que Phèdre c'était la scène centrale avec du frontal. Quand même. Oui.
Je voudrais vous poser une question bateau sur la mémoire. Je sais que vous faites de la méditation.
Oui.
Il paraît que la méditation aide.
Considérablement.
Mais en quoi?
Ah, écoutez, ça aide parce que la méditation vous apprend à être dans le présent. Et dans une grande intensité du présent, c'est-à-dire que si j'ai des pensées pendant votre émission comme zut, faut que je fasse le marché demain matin, là, je vais la dégager tout de suite et je vais revenir au présent, à ma concentration et à votre question. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, hier, j'ai enregistré un livre et en fait, j'ai fait des pauses toutes les heures, mais ça pouvait durer 4 heures de temps. Parce que chaque fois que j'avais des pensées parasites, je dégageais. Et j'étais toujours dans l'intensité de l'enregistrement, de l'écriture du livre. Ça, sur Angel, ça m'a aidé considérablement pour les changements de personnages.
Oui.
J'ai 14 changements de costume. Quand je passe de l'un à l'autre, il y a des personnages qui reviennent pas, mais il y en a qui reviennent. Et ça, en répétition, ça m'a aidé beaucoup sur les filages. À chaque fois, je...
Est-ce que votre mémoire est liée à des lieux? Par exemple, vous savez que quand vous allez ouvrir cette porte, ça correspond à... Est-ce que ça aide pour apprendre les textes, ça?
Des lieux, c'est-à-dire?
Les déplacements de mise en scène.
Oui. J'ai longtemps appris mon texte avec quelqu'un. Parce que les textes de cinéma pour moi sont très durs à apprendre parce qu'ils sont très ils sont très très fragiles, c'est du français quotidien quoi.
Ah, plus que théâtre.
Ah, moi j'ai beaucoup de mal.
Ah, c'est fou alors que vous apprenez des pièces entières énormes.
Voilà. Et il y a de la musique au théâtre qui a moins au cinéma. De la musique dans le texte, dire dans
le plus quotidien. Pas, j'ai l'impression qu'au théâtre, j'ai de la matière, vous voyez. Au cinéma, c'est plus abstrait pour moi. Alors au théâtre, j'ai beaucoup appris avec quelqu'un. Et maintenant, je reviens à la solitude et à la mémoire visuelle au théâtre. Et au cinéma, bah, on verra.
Parce qu'en ce moment, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que vous répétez avec Christophe Honoré pour le théâtre, oui, encore, pour la Comédie Française.
Marcel Proust.
Voilà. Donc en ce moment, vous avez 14 personnages d'un côté, oui, et un chez Proust de...
Oui, Madame de Villeparisis.
Oui, mais alors comment on fait,
Marquise.
Comment la mémoire, comment on fait
Alors ça, c'est vraiment le français. On répète l'après-midi, on joue le soir. Ouais. Alors là, ils sont épatants, hein, je dois dire, tous mes partenaires. Et toute la troupe, hein, ils ont cette dextérité. Moi, je l'ai, mais pas au point de jouer 6 fois le week-end, vous voyez.
Et comment on dit la phrase de Proust? Comment est-ce qu'on aborde ça?
Ça, c'est une vraie difficulté. Parce que c'est un français très beau et très pur. Ouais. Et là, je répète avec quelqu'un. Vous voyez, je viens de me contredire. Je répète avec l'assistante. Ouais. Parce que on peut vraiment pas inventer, quoi.
Et parfois, au cinéma, on rencontre de grands acteurs de théâtre, comme dans Les Acteurs, avec Jean-Pierre Mariel. Les Acteurs avec Jean-Pierre Mariel.
Vous n'avez pourtant pas l'air d'une femme malheureuse.
En effet.
Pas malheureuse, mais pas non plus.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Parlez-moi de votre mari.
Mais je vois pas pourquoi je parlerais de mon mari à un inconnu.
Mais je ne suis pas un inconnu. Votre mari m'intéresse. Je veux savoir des choses.
Mais quelles choses?
Est-ce que vous riez avec lui?
Oui, parfois.
Il est marrant comme mec.
Ça lui arrive.
Pas énormément marrant.
Mais enfin, merde, je sais plus. Moi, je sais plus.
Dites-moi qu'il est marrant, je vous en supplie.
Il est marrant, il est pas marrant, il est comme tout le monde, quoi. Ça dépend des jours.
C'est un type à faire des blagues.
Quel genre de blagues?
Mauvaise.
Il vous a fait une mauvaise blague?
Très mauvaise.
Attention, le voilà!
Qui ça?
Non, mais restez là où vous êtes!
Je ne bouge pas.
Marielle, Piccoli avec lequel vous avez beaucoup joué. Alors lui, oui, qui, comme vous, alterne...
Ah oui, il a toujours alterné. Mmh. En fait, Piccoli, il a démarré au théâtre, et puis le cinéma lui est tombé dessus au moment de Don Juan avec Marcel Bluval.
Oui, c'est vrai.
Il n'a plus arrêté, et il est toujours retourné au théâtre. Mmh. C'est là que je l'ai connu, moi, en fait. Sur Terre étrangère, mis en scène par Luc Bondy, à Nanterre, que dirigeait Patrice.
Arthur Schnitzler.
Pièce.
Ouais,
ouais,
absolument.
Magnifique.
Et... vous le sentez différent comme partenaire, un plateau,
Piccoli,
scène, oui.
Oh, moi, ce que j'ai adoré chez lui quand je l'ai rencontré, c'est cette liberté d'invention. Je l'ai rencontré donc sur Terre étrangère. Je jouais sa maîtresse dans cette pièce. On avait une scène de rupture. Et d'un soir à l'autre, c'était toujours...
Il rompait pas pareil.
Ah oui, mais c'était toujours réinventé, je sais pas comment vous dire. Un bonheur. Un homme très drôle qui a réalisé aussi, qui finit par réaliser.
Ouais. Dominique Blanc, vous restez avec nous. Oui. La Comédie Française, c'est complet. On est désolé. On espère vous voir bientôt au cinéma. Et dans la pièce de Christophe Honoré, adaptée de Proust. On se retrouve après Stéphane Echer pour les sorties de la semaine.
D'être un vieil homme maladroit, que la solitude faudroie, que tous mes amis me lâchent, que chaque pièce soit à sa place, que nos jours nous soient comptés, que nos fêtes soient annulées, de ne plus trouver ta trace, de maudire le temps qui passe, de ne plus savoir ton nom, de n'avoir plus d'horizon. Je n'attends t'attendrai, n'attendrai que la mémoire te revienne, que tu ne sois plus la mienne, qu'on soit dans l'obscurité, que nos forces nous aient quittés, que la justice intervienne, qu'on soit démis de nos chaînes, que le ciel vire au lilas et que tu te lasses de moi. Je n'attendrai, n'attendrai.
C'est très court, hein, cette chanson est très belle et très courte.
Elle est très belle.
On va parler des sorties. On va commencer par Chat par-ci, Chat par-là,
oui.
De Fabrice Luang-Vija et Émilie Pijard. C'est un programme de 4 courts-métrages d'animation, Laurent, des matous facétieux et attendrissants.
Ben oui, alors c'est les vacances, hein, ce sont les vacances en ce moment, donc on ne saurait trop recommander aux parents d'emmener leur progéniture voir ce film collectif qui effectivement s'intéresse aux félins. Alors il y a 4, vous le disiez, 4 cours dans ce programme. Seul le premier tombe un peu trop à mes yeux dans la mièvrerie habituelle de ce genre d'exercice. Après ça va beaucoup mieux, il n'y a pas d'anthropomorphisme, ouf, tant mieux, bravo. Il n'y a pas trop de bons sentiments, là aussi, bravo. Et il y a surtout une bonne dose souvent de non-sens, d'absurde, donc ça c'est vraiment très bien parce que on trouve pas toujours ça dans la production pour les enfants. Graphiquement c'est un peu trop sage, c'est vrai. Il y a des interludes en noir et blanc qui sont à eux à contrario extrêmement réussis. Bref, ça dure ce qu'il faut, c'est-à-dire 1 heure. Je pense que c'est suffisant pour les enfants et les parents ne s'y ennuieront pas. Donc allez-y, je vous la fais. Allez, cherchez bien. Si vous n'avez pas fait, vous seriez pas contente.
Moi, je me demandais toujours pourquoi les enfants aimaient regarder en boucle leur film préféré. Et j'ai la réponse dans Télérama de cette semaine. C'est un beau dossier. On nous explique que c'est un mécanisme de défense et d'appropriation. C'est absolument passionnant. Tu mourras à 20 ans de Amrad Abou Alala. Premier film de ce cinéaste soudanais, par parenthèse. Son film n'est que la 8e fiction jamais produite au Soudan. C'est dire. Il est situé dans la province d'Al Jazeera de nos jours, peu après la naissance de Moussamil. Le chef religieux du village prédit qu'il mourra à 20 ans. Le père de l'enfant ne peut pas supporter le poids de cette malédiction et s'enfuit. Sakina élève seul son fils, le couvant de toutes ses attentions. Et le film lui couvre ses 18 années, les humiliations de ses copains d'école, le deuil anticipé de sa mère qui compte les jours avant l'échéance, mais aussi l'interdiction d'une histoire d'amour avec sa copine d'école, parce qu'il est acquis, certes, et ça c'est fou, que son destin est plus que scellé, Laurent.
Oui, c'est évident que le sujet est là, c'est-à-dire on est emporté quand même, quoi qu'il en soit, par cette histoire de dingue, où effectivement il s'agit de montrer aussi le poids du patriarcat, le poids de l'exil forcé pour aller travailler, le poids des religieux qui ont fait tant de mal à ce pays il n'y a pas encore si longtemps que ça. Donc on oublie un petit peu les éventuels scories stylistiques d'un premier film. Enfin moi je trouve qu'on les oublie parce qu'on est emporté dans cette histoire et on se dit bon ben voilà un très très beau premier film, vivement le second et puis vivement que le cinéma soudanais nous donne beaucoup plus souvent de ses nouvelles aussi, parce que manifestement, quand même, elles sont bonnes. Il faut le dire, moi je trouve un sens du cadre et des couleurs, notamment, qui est tout à fait saisissant.
Mickey and the Beer, un premier film signé Annabelle Attanasio. Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité de s'occuper depuis la mort de sa mère, de son père, un vétéran d'Irak, détruit et accro aux opiacés, et quand l'opportunité se présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face à un choix impossible, un récit d'apprentissage et une chronique sociale tenue notamment par une comédienne fort talentueuse. Elle s'appelle Camilla Moron et elle n'a que 22 ans.
Oui, j'approuve effectivement, notamment sur la comédienne qui est extraordinaire. C'est un film qui était à l'Acide, c'est une belle sélection de l'Acide à Cannes cette année. C'est un premier film américain qui se déroule dans le Montana. Alors l'ours du titre, hein, c'est évidemment le père, vous le disiez, avec peut-être effectivement dit comme ça un air un peu déjà vu, c'est-à-dire l'histoire de l'ado qui joue l'adulte, hein, finalement c'est ça, qui joue la maturité par rapport au père qui est une sorte d'enfant qui reste un enfant, il est récupéré par la police régulièrement, etc. Ça, on peut se dire, ah, on l'a déjà vu, c'est pas très intéressant. Et en fait, tout le reste, c'est-à-dire la façon dont notamment la réalisatrice considère ses personnages, leur donne beaucoup d'intensité, beaucoup de complexité, fait qu'il y a aussi les seconds rôles qui sont très complexes et très très bien vus. Tout ça décorsette le film, le fait largement exploser, et on se dit vraiment qu'une cinéaste est née avec ce premier long métrage.
Eh bien, encore un premier film avec ce divan à Tunis de Manel Labidi, après avoir exercé en France. Selma, c'est Golshifteh Farahani, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays schizophrène. Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour continuer à exercer. Mais quel sujet passionnant de radiographier un pays via la psychanalyse, un pays au lendemain de sa Révolution, qui a tellement envie de parler, d'évoquer aussi, et au travers de traumas individuels, les incertitudes collectives. Seulement voilà, la réalisatrice, dans son envie d'en faire une comédie, balance entre deux tonalités, le burlesque et le psy du coup se retrouve caricaturé, Laurent.
Ah bah oui, il passe quasiment à la trappe, à part un personnage de coiffeuse, tout le reste est sacrifié à une sorte de pittoresque dont on finit par se ficher, qui prend un peu trop de surplomb avec les personnages. On se dit que si quelqu'un radiographiait un petit village français de cette façon-là, on trouverait ça abominable. Alors là, on trouve ça pittoresque, mais c'est pas bien, c'est vraiment très dommage, cette espèce de entraînement à Tunis qu'aurait pu être le film, et qu'aurait dû être le film, ben on ne le voit pas, avec même presque, ça aurait pu être acide, ça aurait pu être une sorte de comédie à l'italienne. De ce point de vue-là, la promesse n'est pas tenue.
Il y a quand même des très jolis moments dans le film. Là.
Oui, et puis il faut dire que Golshifteh Farahani, décidément, ouais. Même là, là, elle est,
ouais.
Elle est
lumineuse.
Absolument lumineuse.
On rappelle La fille au bracelet, même si on y a consacré une émission, de Stéphane de Moustier, Laurent.
Bien sûr, deuxième film de ce talentueux réalisateur, avec un très beau casting, j'insiste un peu, Mélissa Gers, Chiara Mastroianni, Roche Dizem et Annie Mercier en avocate, convoyée chez Christophe Honoré dans la pièce Nouveau Roman, qui est une actrice extraordinaire qu'on devrait voir, je trouve, plus souvent. C'est un très beau film de procès, un très beau film sur l'adolescence.
C'est décidément la semaine des premiers films. Il s'appelle Deux, celui-là, pour un cinéaste italien installé en France. Il s'appelle Filippo Meneghetti. Nina et Madeleine, deux femmes un peu âgées, sont profondément amoureuses l'une de l'autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que des simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent leur vie ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine, qui est jouée par Léa Drucker. C'est une histoire d'amour, donc, entre deux femmes retraitées, un sujet casse-gueule, traité subtilement, c'est doux et âpre à la fois, mêlant aussi dans l'idée d'un amour contraint par la société, la famille de l'une et la liberté de l'autre. Un film surtout qui est complètement porté par deux immenses comédiennes, la française Martine Chevalier et l'allemande Barbara Sukowa.
Oui, pour moi, ce sont vraiment les deux atouts principaux du film, notamment Martine Chevalier, votre ex-collègue et consoeur de la Comédie française, Dominique Blanc. On se souvient d'elle, et vraiment, c'est une très très grande et belle actrice. Moi, j'ai appris qu'il y avait 6 années d'écriture derrière. Je trouve que ça se sent un peu, et qu'on aurait aimé que le film explose un peu plus, soit un peu plus émouvant.
Après ces 4 Oscars, la ressortie de Parasite de Bong Joon-ho dans 157 salles. Nous avions bien sûr reçu en octobre à Lyon au Festival Lumière Bong Joon-ho, et nous avions prédit sa sélection aux Oscars. On l'écoute. Vous êtes en lice pour les prochains Oscars. Est-ce que c'est important pour vous, cette reconnaissance américaine ?
Nominée, tu l'as tellement.
Je suis nominée.
Non, mais vous serez dans la, vous serez dans la liste des nominés.
Je vous l'apprends. Non, mais en fait, on ne sait pas encore. Ah, tout d'un coup, ça m'a surpris. Je me dis quoi ?
Non, non.
Parce que pour l'instant, non, rien n'est définitif.
Non, non. La question, c'est est-ce que c'est important d'être connu en Amérique ?
Ah, que. 미국에서 지난주에 개봉을 했어요.
En fait, le film est sorti la semaine dernière aux États-Unis.
저번 주에 극장에서 이제 조금씩 늘려가는 상황입니다.
Au début, c'était des petites salles. Maintenant, de plus en plus, le nombre de salles a augmenté.
관객들의 어떤 뜨거운 반응이 있어서 그게 제일.
Donc, en tout cas, le public est vraiment très chaleureux et reçoit bien le film. Donc, ça, c'est important.
영화를 개봉할 때 항상 뭐 미국에서의 반응이 어떠냐, 프랑스에서 어떠냐, 한국에서 어떠냐. 물론 다 중요하겠지만
tout est très important, la réception du public aux États-Unis, en France, en Corée.
이기적으로 생각해요.
Mais moi je suis très égoïste en fait.
아주 이기적인 기준점을 갖고
Donc,
있어요.
Mon...
내가 재밌으면
ma référence en fait c'est moi. C'est, il faut que ça me plaise, il faut que le film m'amuse parce qu'en fait en général quand je tourne, je veux faire un film pour moi. En fait, je fais vraiment un film pour moi pour que moi je suis content du film et que je suis satisfait, que je sois satisfait. Mais les producteurs bien sûr, ils aiment pas du tout quand je dis ça.
C'est super comme propos Dominique Blanc vouloir faire un film pour lui,
pas pour
lui.
Pour génial.
Soi. Donc ça s'appelle Parasite Bong Joon-ho et c'est ressorti. Et Laurent...
Ça va sortir en noir et blanc.
Oui, ouais, ah, ça va être une drôle d'expérience.
Oui,
un festival annoncé.
Alors un festival, ça sera à Pézenas, figurez-vous, du côté de Montpellier. Pendant quelques jours, on va voir beaucoup de films du Nord, de la Finlande, de l'Islande. Fête. Donc il y aura du Coris Maki, comme vous aimez. Mais bien sûr, voilà, du Joachim Trier aussi. Voilà, ouais. Voilà, beaucoup de films et puis d'autres hommages, des avant-premières. C'est un joli festival qui se déroule au cinéma Le Molière. Pour vous, Dominique Blanc, nous avons deux cadeaux. Deux cadeaux parce qu'on pense qu'il faut toujours en revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à Robert Bresson. Alors on vous offre Mouchette et Au hasard Balthazar qui viennent de sortir, on le dit évidemment aussi à nos auditeurs, chez Potemkin. Deux très beaux DVD, deux très belles versions restaurées avec des suppléments à la hauteur de ces deux films, l'un 1966, l'autre 1967.
Magnifique, merci beaucoup.
Au diapason, voilà, merci à vous.
Et on rappelle que vous êtes encore à l'affiche au Français, on dirait le Festival de Cannes quand on entre français, et les gens on dit tous des pancartes, vous n'avez pas une place, vous avez pas... on se croirait en bas des marches, voilà. Et bientôt avec Christophe Honoré chez Proust, voilà. Merci,
merci
infiniment.
À
merci à vous.
C'était une première et une belle fois avec vous.
Merci.
On vous laisse les clés du générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Anna Bui et Laurane Thomas. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Dominique Blanc, j'y étais.